Donc la dernière fois, on avait commencé à parler de la patience. Et désolé, hein, je me mets en place. Et donc on avait parlé du fait que la patience était une paramita qui était très importante et qu'elle se traduisait à la fois par le fait de savoir réfréner la colère, c'est-à-dire de ne pas répondre au tort par le tort, savoir ne pas rendre les coups. Par rapport à quelqu'un qui nous causerait du tort, et aussi par rapport aux situations. Donc on avait un petit peu énuméré les méfaits de la colère. On avait vu comment les textes nous permettent de voir à quel point la colère, qui peut parfois se présenter comme un ami, en aucun cas, si on regarde les choses plus profondément, plus clairement, en aucun cas la colère ne peut nous apporter une aide. En fait, on voit que quelles que soient les manifestations de colère qu'on peut avoir, on ne sera jamais gagnant. Ça sera toujours une cause de souffrance à la fois pour nous et pour les autres, même si ça peut parfois nous sembler légitime de voir que c'est une réponse qui sera toujours négative pour nous et pour les autres. Et on avait aussi abordé le fait que la compassion. L'amour et la compassion étaient une réponse beaucoup plus appropriée et beaucoup plus bénéfique, non seulement à court terme, mais à long terme. Et puis, on avait vu aussi que la patience, ça traduisait par le fait de savoir endurer les circonstances difficiles, de voir que cette patience s'applique aussi aux circonstances. Et puis on avait aussi parlé du mécontentement, de voir que finalement l'aliment de la haine, la racine de la colère, la racine de la haine, c'était un état d'esprit qui est dans le non-contentement. Et qu'il fallait prendre garde de voir que quand il y avait ce mécontentement dans l'esprit, forcément au bout d'un moment, si on le laissait s'installer, ça allait se déboucher sur des émotions négatives puissantes comme la colère, la haine, l'aversion, la peur, etc. Voilà, on avait parlé de ça. Et puis, ensuite, il y avait quelqu'un qui avait abordé la question de, oui, quand, comment faire pour, quand on a quelqu'un qui se montre agressif, qui se montre irrité. Comment lui faire comprendre que il faudrait pratiquer la patience, qu'il faudrait pratiquer comment lui faire comprendre que cette irritation n'est pas bénéfique pour lui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que là, on prend le problème à l'envers. C'est-à-dire, quand on pratique la patience, c'est parce que la finalité de la patience, c'est nous faire réaliser l'éveil. C'est ça la finalité de la patience. C'est une paramita dont le but, c'est qu'on puisse réaliser l'éveil. C'est un outil pour pouvoir atteindre l'éveil parfait. Et si on décide de pratiquer la patience, c'est de notre propre chef. C'est-à-dire, c'est dans notre aspiration à la fois à nous libérer et à libérer tous les êtres de la souffrance, on va adopter la patience comme paramita. Mais quand les enseignements nous invitent à pratiquer la patience, ils ne nous invitent pas à faire en sorte que l'autre pratique la patience. La patience, c'est un enseignement qui s'adresse à celui qui veut pratiquer la patience. On n'est pas là pour. Le propos de cet enseignement, ce n'est pas de nous faire. C'est pas de nous inviter à aider l'autre en lui conseillant de pratiquer la patience, parce que précisément, si l'autre a de l'irritation, si l'autre a des facteurs perturbateurs, si l'autre nous a envers nous une conduite répréhensible, c'est pas à nous de lui dire de pratiquer la patience, c'est à nous de pratiquer la patience. C'est comme ça que ça marche. Donc, quand on écoute un enseignement sur la patience, ce n'est pas pour apprendre à l'autre ce qu'il doit faire, c'est pour le mettre en pratique. Et ensuite, le troisième type de patience, c'est la patience vis-à-vis des enseignements profonds. Donc ça, on va le voir ce matin. Parfois dans les textes, c'est dit traditionnellement comme ça, c'est la patience qu'on doit avoir envers les enseignements très profonds qu'on n'est pas à même de comprendre d'emblée. Le Bouddha, donc, a le souci de proposer une voie progressive qui s'adapte aux besoins de chacun, mais plus on va avancer, plus on va être à même de comprendre son enseignement de manière de plus en plus profonde. Et pour nous emmener sur le chemin, pour nous emmener sur la voie, le Bouddha va utiliser des images, va utiliser un langage que l'on comprend, il va utiliser des concepts que l'on comprend. Et plus on va se familiariser avec la voie bouddhiste, plus on va voir que le Bouddha, au bout d'un moment, petit à petit, va détruire tous les concepts qui nous enchaînent. On commence par avancer en utilisant des concepts qui vont ensuite être petit à petit détruits au fur et à mesure. Et donc, il y a des choses qu'on ne va pas être à même de comprendre d'emblée dans le Dharma. Et là aussi, on nous invite à avoir de la patience, à garder un esprit ouvert, à comprendre que nous sommes en chemin, qu'il y a des choses qu'on peut envisager, qu'il y a des choses qu'on n'est pas encore à même d'envisager. Et c'est important d'être humble par rapport à ça. C'est important de rester ouvert. De rester patient. Donc ce point-là, donc il est décrit comme ça, la patience vis-à-vis des enseignements profonds. On va aussi en parler en termes de tolérance. Tout simplement être tolérance dans le sens accepter les choses, même si on ne les comprend pas, accepter l'autre, les réactions de l'autre, être tolérant vis-à-vis par rapport à ce que les gens font. Par rapport à ce que les gens disent, rester ouvert parce qu'on n'a pas forcément toutes les cartes en main, on n'a pas forcément une vue globale de la situation, et donc il est important de garder un esprit ouvert et tolérant. Alors on avait parlé beaucoup de la colère, on avait beaucoup parlé des manifestations de colère, on avait parlé des méfaits de la colère, et quand on parle de la patience, on va aussi parler de cette émotion négative qui est la jalousie. La jalousie, peut aussi se traduire par une forme d'agression. Donc c'est pour ça qu'elle rentre bien dans le contexte de la patience. La jalousie dans le dharma, ça se traduit par le fait d'être incapable de se réjouir du bonheur des autres. On considère que le fait que l'autre soit heureux comme une sorte d'obstacle à notre bonheur, comme une sorte que on se sent inhibé par le bonheur de l'autre. Alors, je vais vous lire un passage de la marche vers l'éveil de Shantideva, sur lequel je me suis appuyé déjà la dernière fois. Et avant de vous lire ce passage-là, je vais vous présenter Shantideva, parce que j'en ai pas beaucoup parlé la dernière fois. Et il y a quelqu'un qui en parle très bien, c'est une préface que j'ai trouvée dans un bouquin que je vais vous lire. Donc, c'est une préface tirée de la Nef des enfants des vainqueurs. C'est un commentaire du Bodhisharyavatara. Donc, c'est un livre énorme que je n'ai pas lu. Moi, j'ai juste lu la préface. Donc, je ne vais pas frimer. Mais je trouvais qu'elle donnait envie de rentrer en contact avec les enseignements de Shantideva. Le texte que vous avez entre les mains, le Bodhisharyavatara en sanskrit, ou l'entrée dans la conduite des bodhisattvas, nous on le traduit par la marche vers l'éveil, fut composé au 8e siècle par le héros de l'éveil, le fils des vainqueurs, nommé Shantideva. Ce grand maître était un éminent érudit et pratiquant de l'université monastique de Nalanda en Inde. Il fait partie des 17 pandits de Nalanda. Mais il se faisait humblement passer pour un fainéant qui ne faisait que dormir, manger et déféquer, selon le surnom qu'on lui avait attribué. Les moines de Nalanda l'appelaient à l'époque Bushuku, ça veut dire celui qui passe son temps à dormir, manger et déféquer. Les autres moines du monastère ne reconnurent ces inconcevables qualités que quand il leur exposa le Bodhisharyavatara. Vous trouverez dans de nombreux ouvrages le récit des circonstances exceptionnelles dans lesquels ce texte fut enseigné. Je ne les relaterai donc pas ici. En deux mots, c'est le cœur battant de la tradition de Nalanda. Alors, pour la petite histoire, en fait, ces circonstances exceptionnelles, c'est que donc voilà, dans l'université, tout le monde l'appelait Bushuku. C'était vraiment le bon à rien, quoi. Et puis un jour, pour lui faire une blague et pour l'humilier, les moines du monastère décide que donc la tradition c'était que quand il y avait un grand bienfaiteur qui se rendait au monastère pour le remercier de ses dons, on demandait à un moine ou à un lama de faire un exposé du dharma à l'occasion, une sorte de voilà d'enseignement pour l'occasion. Et puis du coup ils ont décidé de choisir de désigner Shantideva pour donner l'enseignement. Alors qu'il y avait un des plus grands bienfaiteurs du monastère qui se rendait sur place. Et en plus, pour rajouter à l'humiliation, il lui avait confectionné un trône immense, un trône vraiment très très haut. Et le jour J, donc Shantideva monte sur le trône et puis commence par dire est-ce que vous voulez un enseignement classique? Ou est-ce que vous voulez en gros un enseignement de mon cru? Alors là, tout le monde se marre et tout le monde rigole. Et puis, du coup, le bienfaiteur se prend au jeu et puis dit, bon, bah ok, allez-y, donnez un enseignement de votre cru. Et c'est à ce moment-là que Shantideva expose la marche vers l'éveil. Et il le fait vraiment d'une traite. Et pendant l'enseignement, au moment où il arrive au 9e chapitre, où il parle de la véritable, de la connaissance transcendante, alors je ne sais plus de quoi ça traite, mais il commence à parler de la nature ultime des phénomènes, il commence à s'élever dans les airs, en lévitation, et puis il poursuit son enseignement comme ça. Et donc, du coup, cette histoire est restée très
À ce
célèbre.
moment-là, du coup, à ce moment-là, du Bodhisattva, quand
Et
ni la réalité ni la non-réalité ne se présentent plus à l'esprit, alors, en l'absence de toute autre démarche possible, l'esprit libéré des concepts s'apaise.
voilà, c'est ça. Et à ce moment-là, il commence à s'élever dans les airs et c'est retranscrit dans des peintures, dans des tankas. Je ne sais pas si vous voyez celle que je suis en train de vous partager à l'écran. Voilà. Donc je poursuis la préface. Le poème du maître Shantideva fut immédiatement considéré comme essentiel dans le bouddhisme du grand véhicule en Inde, comme l'attestent les 108 commentaires indiens, et fut proéminent parmi les textes traduits du sanskrit au tibétain dès la première propagation du bouddhisme au Tibet. Le texte fut donc traduit une première fois par le traducteur Kawapeltsek, puis retravaillé deux fois, d'abord par Rinchen Zangpo, puis par Nyok Loden Shirab, ce qui démontre l'intérêt particulier que lui portèrent les Tibétains au cours des siècles. Il fut étudié et pratiqué par les éminents maîtres et méditants du grand véhicule et s'inscrit dans la tradition philosophique des conséquentialistes de la voie médiane, dans la lignée du grand Nagarjuna et de Chandrakirti. Atisha et les sages Kadampa le vénéraient tout particulièrement. Ils le comptaient d'ailleurs parmi ce qu'ils appelaient les six traités indispensables. Ce chef-d'œuvre devint la base de toute la littérature du Lojong, ou entraînement de l'esprit dans le Mahayana, avec notamment son sixième chapitre sur la patience, qui présente de la façon la plus pertinente qui soit les antidotes à la colère, ainsi que le huitième chapitre qui détaille la méditation sur l'échange de soi-même avec autrui. Le poème fut commenté par les grands exégètes tibétains de toutes les traditions, donc là il cite toutes les traditions. De nos jours, sa sainteté, le 14e Dalai Lama, n'a de cesse d'enseigner ce texte magnifique et le pratique depuis son plus jeune âge. Il dit même souvent que s'il parvint à engendrer une expérience de l'esprit d'éveil et que si la pratique de son essence, l'échange de soi-même avec autrui, a pris une autre dimension dans son parcours spirituel, c'est grâce à cette œuvre. Donc, effectivement, le chapitre sur la patience, il est vraiment remarquable dans la marche vers l'éveil. Il est vraiment très complet. Et je vous invite vraiment à le lire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je l'ai en fichier audio. Je vais vous le mettre en partage parce que c'est un texte que je trouve très beau. Et l'enregistrement audio est très bien lu. Enfin, je trouve que le lecteur a une façon de le lire qui est très inspirante. Donc, je vais vous le mettre en partage. Ça va, vous m'en, y a pas de problème de son ou...
Non, ça va.
Ok.
Ça va.
Voilà, c'est un petit MP3 qui dure, on va dire, une vingtaine de minutes. Je suis en train de, voilà, je vous le mets en partage à tout le monde dans le chat. Ça fait 21 mots, comme ça vous pourrez le télécharger quand vous voudrez. Et puis. Pour en revenir à la marche vers l'éveil, je vais aussi vous lire un passage sur la jalousie, parce qu'on a beaucoup parlé de la colère, et puis on n'a pas beaucoup parlé de la jalousie. Et là aussi, je trouve que sa façon d'en parler est très éloquente.
Télécharger?
Alors. Il est des hommes qui se délectent à louer les vertus d'autrui. Pourquoi, ô mon cœur, ne pas y prendre plaisir toi aussi? C'est un plaisir irréprochable, délicieux, permis par les saints. C'est le meilleur moyen de gagner le prochain. C'est un plaisir que tu n'aimes pas? Mais alors il faudrait avoir la même aversion pour les salaires, les aumônes, etc. On gâcherait ainsi cette existence et celle à venir. Il se parle à lui-même, en fait. On fait ton éloge. Tu admets qu'on y prenne plaisir. On fait l'éloge d'un autre, tu ne veux pas y prendre plaisir. Tu as suscité en toi la pensée de l'éveil par désir de rendre heureux tous les êtres. Comment peux-tu t'indigner contre ceux qui se trouvent spontanément heureux? Tu souhaites, dis-tu, aux êtres l'état de Bouddha vénérable aux trois mondes. Et en présence de vains honneurs, tu brûles de jalousie. Cette famille dont tu es responsable...
Je n'entends rien.
Je pense qu'il est parti, il y a une coupure.
Ouais.
Il n'apparaît plus sur les écrans.
Ouais, désolé, je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu une coupure.
Ça doit être un problème de bande passante.
Ouais.
À mon avis, c'est trop chargé, il faut qu'on éteigne nos vidéos. Ça fait trop. Il faut qu'on enlève nos vidéos,
Je suis désolé, en fait, c'est
nos images.
C'est vrai que le réseau de luce n'est pas génial.
Oui, mais ça fait ça quand il y a trop de... Le mieux, c'est qu'on enlève nos caméras. Déjà, ça retire de la...
C'est peut-être okay. le fichier qui est en train de charger.
Ouais, bah à ce moment-là, je remettrai le fichier et puis on le téléchargera à la fin.
Parce que le fichier, effectivement, au moment où tu parles, c'est pas génial, ça fait trop de choses pour la connexion.
Ok, oui. D'accord. Mmh. Est-ce que ça va mieux là ? Vous me recevez bien ?
Oui.
C'est un...
ouais, ça va mieux.
Super. Bon, bah, du coup.
Salut Daniel.
Je vais recommencer oui, comme ça. Ça va
couper les vidéos.
Un petit rappel.
Oui, il faut couper les vidéos.
Couper les vidéos, puisque ce n'est pas utile, c'est une bonne idée. Hein. C'est...
Ouais. Pas qu'on peut s'entendre.
Alors, je reprends. Il est des hommes qui se délectent à louer les vertus d'autrui. Donc, voilà. Quand Shantideva. Enseigne la marche vers l'éveil, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il se parle à lui-même. Il n'est pas en train de faire la leçon aux gens, il fait son autocritique, et c'est ça qui est inspirant, c'est de voir comment il fonctionne avec lui-même. Et il est très intransigeant, hein. Il est très exigeant avec lui-même, mais il y a un côté très inspirant dans cette façon de dire les choses. Il est des hommes qui se délectent à louer les vertus d'autrui. Pourquoi, ô mon cœur, ne pas y prendre plaisir toi aussi ? C'est un plaisir irréprochable, délicieux, permis par les saints. C'est le meilleur moyen de gagner le prochain. C'est un plaisir que tu n'aimes pas ? Mais alors il faudrait avoir la même aversion pour les salaires, les aumônes, etc. On gâcherait ainsi cette existence et celle à venir. On fait un éloge, tu admets qu'on y prenne plaisir. On fait l'éloge d'un autre, tu ne veux pas y prendre plaisir. Tu as suscité en toi la pensée de l'éveil par désir de rendre heureux tous les êtres. Comment peux-tu t'indigner contre ceux qui se trouvent spontanément heureux ? Tu souhaites, dis-tu, aux êtres l'état de Bouddha vénérable aux trois mondes, et en présence de vains honneurs, tu brûles de jalousie. Cette famille dont tu es responsable et que tu dois nourrir subvient seule à ses besoins, et au lieu de te réjouir, tu t'irrites. Que ne souhaite-t-il pas aux êtres, celui qui leur souhaite l'éveil ? D'où viendrait la pensée de l'éveil à qui est jaloux de la prospérité des autres ? Si un autre ne recevait pas cette aumône, elle resterait dans la maison de son bienfaiteur. Dans tous les cas, elle ne serait pas pour toi, que t'importe qu'elle lui soit donnée ou non. Pourquoi t'écartes-tu des mérites, de la foi, des qualités spirituelles ? Dis-moi, pourquoi ne pas t'emporter contre ton manque de mérite à recevoir cette aumône ? Non seulement tu ne déplores pas le mal que tu as fait, mais tu prétends rivaliser avec ceux qui ont fait le bien. Si un malheur arrive à ton ennemi, pourquoi t'en réjouir ? Toutes tes mauvaises pensées ne l'accableront pas. Et fut-il réalisé par ton souhait, en quoi ce malheur peut-il faire ton bonheur ? Si tu dis « me voilà satisfait », quelle meilleure façon de causer ta ruine ? Louange, gloire, honneur ne servent ni au mérite, ni à la durée de la vie, ni à la force, ni à la santé, ni au bien-être physique. Que trouverait là celui qui connaît son intérêt ? Au sens à donner à l'alcool, au jeu, etc., si l'on ne désire que le plaisir des sens. Et la gloire ? Pour elle, les hommes sacrifient leur bien et leur vie. Les mots sont-ils donc mangeables ? Une fois mort, goûtera-t-on ce plaisir ? Comme un enfant, lorsque son château de sable est démoli, pousse des cris de détresse, ainsi m'apparaît mon cœur devant la ruine de ma réputation et de ma gloire. La louange est un son vide de pensée, dont tu ne peux dire qu'il te loue. Tu dis qu'un autre est satisfait de toi et que telle est la cause de ta joie. Qu'elle s'adresse à un autre ou à moi, que me fait cette satisfaction d'autrui ? C'est lui seul qui éprouve ce plaisir. Je n'en ai pas la moindre part. Si je me proclame heureux de son bonheur, alors je dois l'être dans tous les cas. Pourquoi donc le bonheur qu'il trouve dans son affection pour un autre ne me cause-t-il aucun plaisir ? Ainsi, la joie naît en moi parce que c'est moi qu'on loue, et c'est là une conduite aussi incohérente que celle d'un enfant. Les louanges ruinent à la fois la paix de l'âme et le renoncement au monde. Elles engendrent la jalousie à l'égard des hommes, de mérite et dévastent toutes mes qualités. Bon, etc., etc. Je ne vais pas vous lire tout le passage parce que c'est long, mais c'est vrai qu'une fois qu'on a lu ça, une fois qu'on a fini, ça, ça remet les choses en place. Voilà, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière la colère, derrière la jalousie, ce sont deux émotions qui vont s'exprimer par l'agression. La colère, ça va être beaucoup plus direct, ça va se traduire par des paroles brutales, des paroles violentes, des comportements irrespectueux, voire des coups. La jalousie, c'est aussi une forme d'agression. Quand on est sous l'emprise de la jalousie, c'est-à-dire c'est beaucoup plus, on pourrait dire, mielleux, ça passe, comment dire...
Ça dépend des fois.
Mieux. Oui, ça dépend des fois. Mais vous savez, parfois ça peut se traduire par de l'humour, c'est-à-dire on glisse des phrases assassines derrière une petite blague lancée comme ça. Mais finalement, c'est toujours... la jalousie, ça se traduit toujours par le fait de vouloir minimiser les qualités d'autrui, minimiser les mérites d'autrui. Donc, l'air de rien, on va glisser une petite phrase du genre « oui, enfin bon, etc. » mais l'air de pas y toucher. Mais n'empêche que c'est quand même une forme d'agression. Et c'est terrible la jalousie parce que, comment dire, c'est une émotion qui n'a rien pour elle, quoi. Elle est... le fait de ne pas pouvoir se réjouir du bonheur d'autrui, en fait, ça nous rend vraiment malheureux. Et puis, on ne peut même pas... l'émotion de la jalousie, c'est quelque chose qui est très, très inconfortable. Mais
c'est l'envie, non ?
Il y a une forme d'envie dans le sens où on convoite le bonheur de l'autre et le fait de le voir heureux nous empêche d'être heureux. On n'arrive pas à se réjouir du bonheur de l'autre, on est inhibé par le bonheur de l'autre. C'est comme si le bonheur de l'autre nous empêchait, nous, d'être heureux. Et donc, l'antidote à la jalousie, c'est très simple, c'est exactement l'inverse. C'est d'apprendre à se réjouir du bonheur de l'autre. De cultiver le fait de le plaisir qu'on a à être en contact avec... ce qui réjouit l'autre, ce qui le rend heureux, ses qualités, ses mérites, etc. Alors, ensuite, pour développer la patience, je ne sais pas si vous avez pratiqué la patience depuis notre dernière vidéo, mais c'est vrai que c'est un sacré... c'est pas évident. C'est pas évident de pratiquer la patience et il y a toujours un moment où on a l'impression que la patience a des limites. Et là, ce que j'aimerais aborder avec vous ce matin, c'est comment on fait pour développer la patience, c'est-à-dire comment on arrive à la paramité de la patience, c'est-à-dire une patience qui est sans limite. La patience, elle aura toujours une limite tant qu'on n'a pas une compréhension profonde des choses. Quand on parle de développer la patience, on va parler de la développer par la sagesse et la compassion, qui sont en fait les deux facettes d'une même chose, les deux facettes d'une même médaille. Quand il y a sagesse, on parle de compréhension de la nature des choses, de comment les choses sont. Et quand il y a compassion, on parle aussi de compréhension. Plus on comprend les choses, plus on a de la compassion, c'est-à-dire plus on souhaite que l'autre soit heureux, plus on souhaite que l'autre soit libre de la souffrance parce qu'on comprend l'illusion dans laquelle l'autre est. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de la sagesse, on parle de la compréhension des choses, d'un certain aspect, et le résultat de cette compréhension des choses se traduit par l'amour et la compassion. Mais ce n'est pas l'amour au sens affectif. Quand on parle d'aimer l'autre, ce n'est pas parce qu'on pratique la patience et la sagesse qu'on parle d'un amour affectif, c'est-à-dire qu'on a envie d'embrasser l'autre, qu'on l'aime. Non, on peut tout à fait avoir de l'amour pour quelqu'un, même si cette personne, on n'a pas de, il n'y a pas d'atome crochu, il n'y a pas forcément d'affinité avec la personne. Parce que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Quand on parle d'amour et de compassion, on parle de... Amour, ça veut dire souhaiter que l'autre soit heureux. Et compassion, ça veut dire souhaiter que l'autre ne souffre pas. Plus on est capable de voir les réactions de l'autre, que ce soit des paroles négatives, que ce soit des actes négatifs, que ce soit une conduite qu'on trouve répréhensible, plus on comprend qu'en fait, l'autre n'est pas libre de faire autrement. En fait, ce sont des causes et des conditions. Plus on comprend comment les choses se mettent en place pour que cette personne réagisse comme ça, plus on comprend la base du problème, plus en fait, il n'y a plus aucune raison de détester cette personne ou d'avoir du ressentiment envers cette personne. Et donc, on se sent totalement libre de l'aimer quoi qu'elle fasse. Et là, on parle d'amour inconditionnel, c'est-à-dire pas... c'est pas qu'on a envie de la prendre dans nos bras ou voilà, d'aller, je sais pas moi, passer une soirée ensemble ou voilà. Il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir des atomes crochus pour souhaiter à cette personne d'être heureuse et de ne plus souffrir, de comprendre les causes de la souffrance et de vouloir en fait détruire la racine de cette confusion. Et c'est ça la compassion, c'est qu'on ne se focalise pas tant sur la personne qui doit poser du tort, on se focalise sur les causes du problème, sur la racine du problème. Et pour développer ça, pour développer donc du coup cette patience illimitée, cet amour inconditionnel, cette compassion inconditionnelle, il faut qu'on apprenne à regarder les choses de manière plus profonde. Et c'est le propos de la sagesse. La sagesse, c'est la sixième paramita. On la traduit aussi par la connaissance transcendante. Et la sagesse, donc on l'étudie, voilà, on va vraiment la voir en détail quand on abordera la sixième paramita. Mais quand on aborde les paramitas, à partir du moment où on parle de paramita, c'est qu'on introduit la sagesse dans chaque vertu. Si on parle de la vertu de la générosité, la paramita de la générosité, ça veut dire qu'on inclut la sagesse. Paramita de l'éthique, on y inclut la sagesse. La patience, on y inclut la sagesse. Et donc, c'est plus on va avancer en plus dans les paramitas, plus cette notion de paramita va être importante. Plus il faut introduire cette sagesse, cette compréhension. Et c'est pour ça que je vais passer un petit peu du temps ce matin pour parler de ça, pour qu'on soit bien clair, enfin le plus clair possible avec ça. Alors, petit PowerPoint. Donc, quand on parle de la sagesse, on parle d'une vue, d'une façon de voir les choses. Il y a plein de vues proposées dans le bouddhisme pour déraciner l'illusion. Une vue, c'est une façon de voir, une façon d'observer les choses. Quand on parle de la vue, de la sagesse, on pourrait généraliser, hein, vraiment... Là, je ne rentre pas dans les détails, c'est juste grossièrement. Quand on parle de sagesse, on parle de la vue libre des extrêmes. Le Bouddha, donc comme je disais tout à l'heure, le Bouddha nous enseigne une voie qui nous permet de nous libérer de tous les concepts, de façon à pouvoir observer, de façon à pouvoir voir les choses telles qu'elles sont, les voir directement. C'est-à-dire sans interprétation, sans a priori, sans conditionnement, une vue libre des conditionnements. C'est ça qu'on appelle voir les choses directement. Ce que ça veut dire aussi, c'est que la racine du samsara, la racine de la souffrance, c'est précisément qu'on croit voir les choses directement, mais en fait, on ne les voit pas directement. On les interprète. Et notamment, il y a une. On est essentiellement amené à penser que soit les choses sont réelles, soit les choses ne sont pas réelles. C'est ça qu'on appelle les vues extrêmes. Ça, j'estime que ça existe, que c'est vrai, que c'est réel. Ou au contraire, on va conclure que ça n'existe pas, ce n'est pas réel, etc. La véritable... là où le Bouddha veut nous emmener, c'est de comprendre que lorsqu'on voit les choses telles qu'elles sont, on n'est plus, on n'a plus à conclure, on n'est plus, on n'a plus besoin de conclure, d'être enfermé par des conclusions. Donc, ceci existe ou donc ceci n'existe pas. Pour utiliser un exemple, on va parler de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est un, c'est un bon exemple parce que ça apparaît en dépendance de causes et de conditions, et pourtant, l'arc-en-ciel n'a aucune existence propre. Même s'il apparaît, on ne peut pas dire qu'il est réel. C'est-à-dire, on ne peut pas dire qu'il existe par lui-même, qu'il y a quelque chose comme étant l'arc-en-ciel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arc-en-ciel, pour qu'un arc-en-ciel apparaisse, il faut des, la réunion de plusieurs facteurs, comme l'humidité, la lumière, et puis notre orientation. Si, pour nous, l'arc-en-ciel est là, Si au niveau de la colline, il y a une autre personne et qu'on lui dit, bah voilà, l'arc-en-ciel est là, peut-être qu'elle, elle ne le voit pas parce que son orientation est différente. Pourtant, on ne peut pas nier que pour nous, l'arc-en-ciel est là, il apparaît, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il est réel, c'est-à-dire qu'il existe par lui-même, qu'il existe, c'est-à-dire qu'il est vraiment là. C'est juste la conjonction de facteurs qui fait qu'à un moment donné, à un instant T, il apparaît. Et c'est quelque chose. C'est une notion qu'on va aborder très souvent parce qu'il faut absolument se familiariser avec cette compréhension-là. Ce que les enseignements nous visent à comprendre, d'abord intellectuellement, et c'est très important d'en avoir ne serait-ce qu'une compréhension intellectuelle, c'est que les choses telles qu'elles nous apparaissent, ne sont pas telles qu'elles nous apparaissent. Elles nous apparaissent comme ça, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont comme ça. C'est elles nous apparaissent comme ça. Donc, on va parler d'une réalité qui est relative. On ne peut pas nier que ça apparaît, mais ce n'est pas parce que ça apparaît, ça nous apparaît comme ça, que c'est réel. Donc c'est pour ça que j'ai marqué donc non-soi ou vacuité des phénomènes composés. Voilà, on va parler de la notion de vacuité. Quand on parle de la vacuité des phénomènes, ça ne veut pas dire que rien n'existe. Ça ne veut pas dire tout est vide. Parce que parfois, les gens le comprennent quand on parle de vacuité des phénomènes. Donc, tout est vide. Non, de quoi on parle quand on parle de vacuité? On parle de vacuité de quoi? Vacuité des phénomènes. Les phénomènes, bien qu'apparaissants, sont vides d'existence propre. Ce qu'on veut dire par là, c'est pour prendre l'exemple de l'arc-en-ciel, l'arc-en-ciel est vide d'arc-en-ciel. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose comme étant l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel est la conjonction de plusieurs éléments interdépendants, l'orientation, la lumière, l'humidité, l'observateur, la façon dont on l'observe, la conscience de l'observateur qui fait que tous ces éléments, à un moment donné, font que l'arc-en-ciel apparaît. Mais il n'y a rien qui soit quelque chose comme étant l'arc-en-ciel, bien que ça apparaisse. Je vais poursuivre en fait avec plusieurs exemples pour qu'on essaye de bien comprendre ce qu'on entend par réalité, non-réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au Tibet, pour... C'était Rinpo Rinpoche, un maître tibétain, qui nous avait raconté ça, une petite histoire. Les enfants tibétains, en fait, on leur dit que s'ils déposent leurs excréments à la base de l'arc-en-ciel, ils trouveront à la place un trésor. Et donc, Rinpoche nous racontait que quand il était petit, il prenait dans sa robe tout son caca et puis il courait derrière l'arc-en-ciel en espérant qu'il pourrait en trouver le point de chute. Je vais continuer avec des exemples en fait pour parler de ça. L'idée c'est de pouvoir remettre en question intellectuellement que notre façon de voir n'est pas réel n'est pas la vérité. C'est pas parce qu'on le voit, c'est pas parce qu'on le perçoit que c'est réel. C'est pas parce que ça nous apparaît que c'est tel que ça nous apparaît. Et d'ailleurs, on peut jouer en fait avec justement cette dimension de la réalité. Et comme on le voit sur cette photo, on voit la personne qui tient entre ses doigts le Taj Mahal, entre son pouce et son index. En fait, il suffit de se placer dans le bon angle de vue pour qu'on ait l'illusion que cette personne tient entre ses doigts le Taj Mahal. Il y a beaucoup d'artistes en fait qui jouent avec ça, qui jouent avec justement cette nature de la réalité qui est trompeuse, qui a un caractère onirique, qui a un caractère illusoire. Et j'avais trouvé aussi ce petit dessin sur les réseaux sociaux, c'est un petit dessin qui est connu où on voit un personnage qui dit, donc il y a un chiffre qui est à terre, et puis selon qu'on s'oriente, c'est soit un 6, soit un 9, donc il y en a un qui dit c'est un 6, et puis l'autre qui dit non, c'est un 9, et en fait, on pourrait débattre longtemps, mais en fait, on ne peut pas dire que les deux ont tort, on ne peut pas dire que les deux ont raison, ou alors on pourrait dire que les deux ont raison, ou les deux ont tort, en fait, tout dépend de notre point de vue. Il y a aussi j'avais trouvé ce trompe-l'œil d'un artiste qui s'appelle Escher, qui fait beaucoup de choses comme ça, en fait, selon ce qu'on observe, selon qu'on porte notre attention sur le noir ou sur le blanc de la peinture, eh bien, si on se concentre sur le blanc, on va voir des anges. Si on se concentre sur le noir, on va voir des sortes de démons. Tout dépend de notre point de vue. Il y a beaucoup d'artistes en fait, qui vont jouer avec ça, qui vont jouer avec qui vont jouer avec les perspectives, qui vont jouer avec les angles de vue pour nous montrer qu'en fait, ce qu'on perçoit n'est pas forcément ce qui est. Tout dépend de comment c'est perçu. Tout dépend de ce qu'on regarde, de ce sur quoi on porte notre attention. J'en avais trouvé un autre que je trouvais sympa. C'est une perspective impossible. C'est-à-dire, ça ne nous choque pas à première vue, mais en fait, quand on y regarde plus attentivement, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui cloche dans l'image. Par exemple, on voit l'eau, elle part d'un point au-dessus, la petite cascade qu'on voit près de la maison. On voit qu'elle part d'un niveau qui est supérieur et puis elle descend vers un niveau inférieur. Et puis quand on suit son parcours dans le petit canal, eh ben on se rend compte que le canal donc, qui est censé être à un niveau inférieur, en fait, si on suit le parcours, ben, il se retrouve au niveau supérieur. En fait, ça ne correspond pas à notre réalité tangible. Ça ne tient pas la route et pourtant, l'illusion est là. On a vraiment l'impression que ça tient la route. Alors, pour continuer, donc en fait, il va y avoir énormément d'exercices intellectuels, analytiques, qui vont nous permettre de ne serait-ce que remettre en doute notre façon de voir les choses, et notamment notre façon de considérer ça c'est vrai, ça c'est pas vrai, ça c'est réel, ça c'est pas réel, c'est comme si, c'est comme ça. De voir que ce n'est pas si solide que ça. On va, par exemple, démonter les affirmations comme l'existence des choses en tant que telles. Par exemple, pour prendre l'exemple de la montagne, si on y regarde plus profondément, il n'y a pas quelque chose comme étant la montagne. La montagne est toujours constitué d'éléments qui composent la montagne. Et dans tous les éléments qui composent la montagne, on ne peut pas trouver l'élément montagne. La montagne est faite de pierre, elle est faite de terre, elle est faite de végétaux, elle est faite de lacs, elle est faite de reliefs, elle est faite de sapins, elle est faite d'arbres. Mais on va jamais trouver, si on cherche dans tous les éléments qui composent la montagne elle-même. On ne trouve que des éléments qui composent la montagne. Et tous ces éléments qui composent la montagne, eux aussi sont composés d'autres éléments. Je continue sur mes exemples. Par exemple, la pelouse. Sur ce dessin, on voit assez nettement que quand on parle d'une pelouse, ça nous apparaît comme quelque chose existant par lui-même. Mais si on regarde la pelouse n'est en fait qu'un ensemble d'herbes. C'est juste plusieurs brins d'herbe mis ensemble. Donc on peut faire je reprends le même exercice avec la forêt. Ça c'était un petit dessin qui illustrait un enseignement du bouddhiste où Rinpoche disait où est la forêt ? Où est la forêt ? Qu'est-ce que la forêt ? Quand on regarde la forêt, déjà on peut pas lui donner de commencement ni de fin. Où commence la forêt ? Qu'est-ce que la forêt ? Ben, en fait, quand on regarde la forêt, on ne trouve pas de forêt. On trouve des arbres, on trouve des fleurs, on trouve des oiseaux, on trouve de l'herbe, on trouve des éléments qui composent la forêt, mais on ne trouve jamais la forêt. Et puis si on commence à prendre les éléments un par un, par exemple si on dit bon bah en fait il n'y a pas de forêt, il y a des arbres, si on regarde des arbres, on va s'apercevoir que là non plus, on ne trouve pas d'arbre dans l'arbre. Si on regarde l'arbre, en regardant l'arbre, on ne voit pas l'arbre. Ce qu'on voit, c'est des racines, on voit des branches, on voit des feuilles, on voit de l'écorce, on voit tous les éléments qui composent l'arbre, mais on ne voit jamais l'arbre, quelque chose comme étant l'arbre. Et puis, si on va plus loin, si on prend par exemple une feuille, là encore, on pourrait dire qu'on ne voit pas la feuille, que ce qu'on voit de la feuille, c'est toujours des éléments de la feuille. Alors, sur le petit schéma, c'est détaillé, une feuille, c'est une base avec des ramifications, une pointe, des nervures, etc. Et si, je ne sais pas si vous connaissez ce tableau de Magritte, c'est un tableau qui est célèbre, ceci n'est pas une pipe. En fait, ça parle justement de cette analyse des choses. Si on regarde, donc elle joue en fait avec le langage, elle joue avec notre façon de percevoir en démentant justement l'affirmation « ceci est une pipe ». Elle titre son œuvre « ceci n'est pas une pipe ». Effectivement, si on regarde ce qu'on appelle une pipe, et ben on va voir que il n'y a rien dans la pipe qui est une pipe. On va voir qu'il y a l'embouchure, qu'il y a l'embout, qu'il y a du bois, etc., qui compose la pipe, mais on va pas trouver la pipe. Donc on peut faire en fait cet exercice avec n'importe quoi. Là, j'ai beaucoup focalisé sur le fait de démonter l'affirmation « ceci est une chose » par le fait que chaque chose qu'on définit, qu'on dénomme, en fait, est toujours composée d'autres choses que la chose en elle-même. Si on parle d'une ville, on ne trouve jamais la ville. Dans une ville, on va trouver des maisons, on va trouver des voitures, on va trouver des lampadaires, mais à aucun moment donné de la ville, on va trouver la ville. C'est toujours un ensemble de choses, et cet ensemble de choses est constitué d'autres ensembles de choses. Voilà, ça nous permet de voir qu'on peut facilement se laisser piéger par le langage et de nous permet d'avoir une réserve par rapport aux concepts qu'on utilise, qui sont bien pratiques. Quand on parle d'une ville, c'est bien pratique de pouvoir utiliser un mot qui va désigner cet ensemble de choses pour parler de la ville, sinon on serait bien embêté. Mais parfois, en fait, on se laisse piéger par notre langage, par la fonction de notre langage. On se laisse aussi piéger par la notion de continuité. Un exemple qui est souvent utilisé, c'est celui de la bougie. On a l'impression, dans notre façon de percevoir les choses, que cette bougie est la même que celle que j'ai allumée il y a une heure. Voilà, cette bougie qu'on a allumée il y a une heure, par exemple, c'est la même que l'on observe maintenant. Parce qu'il y a l'illusion de la continuité. Attendez, j'ai un... Voilà, l'illusion de la continuité nous fait penser que cette bougie est la même que celle qu'on a allumée il y a une heure. Mais en fait, c'est qu'une illusion. On ne peut pas dire que cette flamme soit la même. On ne peut pas dire qu'elle soit totalement différente de la précédente, mais on ne peut pas dire qu'elle soit la même. Mais dans notre manière de voir les choses, on a l'impression, on a le sentiment que c'est la même flamme. On va aussi avoir cette illusion quand on parle d'un fleuve, par exemple. Quand on parle de la Meuse, quand on parle de la Meuse, on a l'impression que c'est toujours la Meuse, que quand on revient le lendemain, c'est encore la Meuse. Mais en fait, on dit, il y a un proverbe qui dit on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Effectivement, quand on regarde les choses plus profondément, ce qu'on appelle tel fleuve, que ce soit la Loire, que ce soit la Seine, en fait, ne désigne pas quelque chose. C'est toujours un flux, quelque chose qui est en mouvement, et donc on ne peut jamais se baigner dans le même fleuve, parce que si on comprend ce que c'est que le fleuve, en fait, c'est toujours, ce n'est toujours que de l'eau en mouvement, donc ce n'est jamais le même fleuve. Toujours dans le même propos. Ça, c'est aussi une image qui est souvent utilisée traditionnellement. C'est l'image du reflet de la lune dans l'eau. Il est évident que on voit la lune dans l'eau, mais il est aussi évident que la lune n'est pas vraiment là. Ce qu'on appelle la lune qu'on voit, le reflet de la lune dans l'eau, on est à même de comprendre qu'il n'est pas réel. On ne va pas plonger la main dans l'eau pour saisir la lune, parce qu'on sait qu'en fait c'est la conjonction de plusieurs facteurs, le fait que le ciel soit dégagé, le fait que l'eau soit calme, le fait que la lune soit orienté de telle ou telle façon, qu'il y ait le lac, et toute la réunion de ces facteurs font que la lune apparaît, la lune nous apparaît. Mais en même temps, la lune n'est pas là. Et de la même façon, on pourrait se dire, bah oui, mais alors à ce moment-là, la lune, peut-être qu'elle n'est pas dans son reflet dans l'eau, mais on pourrait dire qu'elle est en face de nous, elle est dans le ciel. Mais là encore, si on comprend bien cette façon de voir les choses, on est invité à remettre en doute l'existence réelle de cette lune. Là encore, le fait qu'elle nous apparaisse dans le ciel, c'est aussi la réunion de plusieurs facteurs qui font qu'à l'instant T, ça apparaît, mais ça n'est pas pour autant une réalité pure et dure. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que la lune est vraiment là. Et aujourd'hui, avec la science, on peut aussi, ça peut aussi nous permettre de remettre en cause ces affirmations. On sait que, par exemple, on sait aujourd'hui qu'il y a des étoiles qu'on voit dans le ciel qui, en fait, elles nous paraissent briller de mille feux, mais on sait avec la science qu'elles sont mortes depuis des centaines de milliers d'années. Simplement, le fait que la lumière mette du temps à arriver, à nous parvenir de notre point de vue sur Terre, eh ben, on a l'impression que l'étoile est là. Et pourtant, elle a disparu déjà depuis des milliers d'années. Donc, pourquoi je passe du temps là-dessus ? Parce que ça va être là ce qu'on est en train de voir. En fait, c'est vraiment les prémices de la sagesse. C'est vraiment quelque chose de finalement très. On va dire, c'est un point de départ. Et il va falloir se familiariser avec ça si on veut aller plus loin. Mais là où j'insiste, c'est le fait que c'est de comprendre que quand on nous invite à voir que les choses ne sont pas réellement là, pour pouvoir vraiment le réaliser, pour pouvoir vraiment voir que les choses ont un caractère illusoire, que donc il ne faut pas se fier aux apparences, et donc qu'il n'est pas nécessaire de trop cristalliser les choses, trop saisir les choses, ça demande un esprit extrêmement clair. Les gens ont tendance à penser que quand on parle de la vacuité, et ben du coup, on en conclut, donc tout est vide, donc quelque part, il n'y a pas à s'en faire, il n'y a pas... on peut rester dans un état vaseux et rester indifférent à tout. Non, non, réaliser la vacuité, pour pouvoir réaliser la vacuité, il s'agit en fait d'avoir un esprit très clair. La vacuité se voit, c'est-à-dire c'est parce qu'on ne regarde pas les choses précisément, c'est parce qu'on manque d'acuité dans notre façon d'observer les choses, qu'on se laisse prendre par les apparences, qu'on prend les choses comme argent comptant, comme étant telles qu'elles apparaissent. C'est parce que justement, on a un esprit confus et un esprit opaque qui fait qu'on ne voit pas les choses en profondeur. On ne regarde pas les choses précisément et donc, du coup, on se fait avoir. Et donc, du coup, oui, on se met à se... On se laisse piéger par les apparences. Donc ensuite, ça va. Je vais refaire le lien avec la patience. Il y a aussi un exemple qui est très souvent cité traditionnellement. C'est l'exemple du serpent. Que lorsqu'on a l'esprit confus, quand on a l'esprit qui manque de clarté, quand on ne voit pas les choses profondément, on dit qu'on peut facilement prendre un bout de bois ou un bout de corps dans l'obscurité pour un serpent. Et du coup, se construire tout un scénario par rapport à ça, développer de la peur, développer de la panique, réagir très violemment. Je vois qu'il y a une connexion. Et il suffit en fait d'allumer la lumière pour que se rendre compte que tout le scénario qu'on a fabriqué par rapport à cette forme, eh bien en fait n'était que pure illusion. Alors je vais arrêter le PowerPoint pour vous voir un peu parce que là j'ai un petit peu l'impression de parler tout seul et ça me déstabilise. Ah, ça va, ils sont toujours là, ils ne sont pas partis.
Ah, oui.
Ça se trouve, je suis en train de parler tout ça. Non, c'est bon. Ils sont encore là.
On t'écoute attentivement.
Super.
On t'écoute. Alors, attentivement.
Exactement, on écoute.
Voilà, donc là où ça va être important, c'est que plus on va avoir cette compréhension des choses, on va aller plus loin, on va pouvoir aller plus loin dans l'exercice de la patience. Tant qu'on est piégé par les apparences, notre patience va avoir des limites, forcément. À partir du moment où on va pouvoir regarder les choses profondément, de manière plus profonde, on va pouvoir aller plus loin au niveau de la patience.